Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité africaine ce matin, cette occasion manquée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la capitale du Nord Kivu, actuellement sous le contrôle des rebelles du M23. Cette semaine, une mission d'experts des Nations Unies aurait dû s'y rendre. Finalement, le M23 annonce qu'ils ne viendront pas. Pourquoi cette annulation? Que devaient faire ces experts? Explication dans un instant. Dans ce journal également, le Cameroun, où un réseau de trafic d'êtres humains a été démantelé la semaine dernière à Yaoundé, et où également le parti présidentiel a fêté hier ses 40 ans, appelant notamment le chef de l'État, Paul Biya, à briguer un nouveau mandat. Nous serons aussi au Tchad, où l'avocat d'Olivier Monodji se dit confiant après l'audition par un juge d'instruction de notre confrère, également directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays. Et puis le Sénégal, à Dakar, le Fonds monétaire international confirme que la précédente administration du temps de Macky Sall a bien caché une partie de la dette du pays. C'est donc l'histoire d'une mission qui n'a pas lieu dans l'est de la République démocratique du Congo, occupée par les hommes de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Mission à l'initiative du Conseil de sécurité de l'ONU. Des experts auraient dû venir cette semaine à Goma. Leur objectif, vérifier si les sanctions internationales étaient bien respectées sur le territoire congolais. On parle notamment de l'embargo sur les armes, de gel des avoirs ou encore d'interdiction de voyager. En fait, l'AFC M23 a annoncé l'annulation de la visite sans rien justifier. Précision et explication avec Patient Ligoudi.
C'est un message tombé au dernier moment, laconique, sans justification précise, si ce n'est la transmutation d'agenda évoquée par l'AFC M23. Le communiqué est arrivé alors que la délégation onusienne était déjà en route pour Kigali, dernière étape avant de rejoindre Goma. Cette mission devait pourtant aborder des sujets sensibles. D'abord, les revendications politiques de l'AFC M23 et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu humanitaire. Autre dossier sur la table, les récentes arrestations de combattants des FDLR et d'autres groupes armés dans les régions sous contrôle de l'AFC M23. Certains de ces éléments ont été remis aux autorités rwandaises. Selon les informations des RFI, les experts de l'ONU s'intéressaient aussi au statut des militaires congolais, des policiers et même des groupes armés qui se sont rendus après les affrontements. Et autre sujet délicat, la gestion des ressources naturelles. Des questions devaient être posées sur la production, la commercialisation et l'exportation des minerais dans les zones contrôlées par l'AFC M23, notamment à Rubaya. Les experts voulaient savoir aussi quelles mesures sont mises en place pour éviter que des minerais interdits ou non traçables n'entrent dans les circuits commerciaux internationaux.
Patient Ligoudi, Goma sous le contrôle du M23, d'où la société civile a pris la parole hier, notamment pour soutenir l'initiative de dialogue lancée dernièrement par les évêques catholiques et protestants et pour demander aussi la démission du président Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, décrit comme responsable de la situation actuelle dans l'est du pays. Dans le même temps, à Kinshasa, ont commencé hier des consultations menées par Désiré Kachmire-Berrandé, un conseiller du président, en vue de former un gouvernement d'union nationale. Consultation boycottée par les principaux opposants, perte de temps, estiment par exemple les partis de Moïse Katumbi ou encore la coalition de Martin Fayoulou. Écoutez aussi les arguments de Seth Kikuni, fondateur du parti Piste pour l'émergence. Lui aussi pousse pour un dialogue sous l'égide des responsables religieux.
La réponse de la classe politique, surtout celle de l'opposition, est claire. Nous rejetons les consultations annoncées par M. Tshisekedi et nous, en tant que cadre de concertation de forces politiques et sociales, nous déclinons cette invitation. L'approche des pères spirituels est en adéquation avec les attentes des Congolais qui aspirent à des solutions beaucoup plus durables et inclusives. Les pères spirituels ont rencontré presque tout le monde, y compris les membres de l'AFC M23. Ils ont fait le tour du monde, ils ont rencontré presque tous les chefs d'État de la région, ils ont échangé avec l'ensemble de la classe politique congolaise. Nous sommes convaincus que c'est leur approche, l'initiative de pères spirituels réunis au sein de l'ECC5O, qui représente la voie médiane, prometteuse, susceptible de contribuer à la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté.
L'opposant congolais Seth Kikuni, joint par Wely Diallo. Et à propos de la RDC, sachez aussi que le ministre de la Défense congolais est en ce moment en déplacement en Afrique du Sud, Pretoria, qui est l'un des principaux soutiens de Kinshasa au sein de la communauté internationale. Et puis il y a cette décision en France de la part des organisateurs d'un concert de soutien aux victimes du conflit dans l'Est congolais. Concert prévu à Paris le 7 avril et maintenu à cette date, malgré les protestations notamment des autorités et de la diaspora rwandaise qui craignent des amalgames et qui rappellent que le 7 avril, c'est la date qui marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. RFI, 8h35, à N'Djamena, au Tchad, où l'avocat d'Olivier Monodji se dit confiant. Hier, le journaliste, arrêté au début du mois et depuis poursuivi pour intelligence avec une puissance étrangère, a été entendu par un juge d'instruction, en compagnie donc de son avocat. Olivier Monodji, qui est le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, qui est également l'un des correspondants de RFI au Tchad, maître Alain Diliam est l'un de ses avocats. Il se dit confiant donc, et même rassuré par le contenu du dossier d'accusation.
Nous, à la fin de cette audition, nous sommes rassurés, une fois de plus encore, de son innocence, que nous avons déjà cru dès le départ. Et nous sommes aussi rassurés par rapport au dossier qu'on a vu et par rapport à ce qu'on lui a reproché. Et nous sommes également rassurés de l'attitude du juge d'instruction qui nous a véritablement prouvé qu'il est en train d'instruire à charge et à décharge. Et nous sommes confiants qu'il dira le droit et nous sommes confiants que le droit serait du côté de Monodji Olivier.
Et maître Alain Diliam, avocat d'Olivier Monodji. Le Tchad également, où le ministère des Affaires étrangères parle de propos irresponsables qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. Réaction aux déclarations d'un général soudanais, le commandant en chef adjoint des forces armées soudanaises, qui en répétant des accusations de soutien tchadien aux paramilitaires FSR, a affirmé la semaine dernière que les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras étaient pour l'armée soudanaise des cibles légitimes. L'actualité au Soudan du Sud, où l'on apprend que l'armée a bombardé hier soir une base de l'opposition armée près de Djouba, la capitale, alors que dernièrement des combats avaient opposé l'armée à une milice présentée comme proche du vice-président au niveau de la ville de Nassir, c'est près de la frontière avec l'Éthiopie. Et dans le même temps, ce vice-président et opposant, Riek Machar, lui, a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU pour dénoncer la présence de troupes ougandaises dans son pays, des soldats venus épauler l'armée nationale sud-soudanaise. Les Nations Unies qui dénoncent de leur côté des attaques indiscriminées sur les civils et qui font savoir par ailleurs que le Soudan du Sud connaît sa pire épidémie de choléra ces 20 dernières années avec 40 000 cas et plus de 700 décès ces 6 derniers mois. Enquête en cours au Cameroun après que la semaine dernière, deux ravisseurs ont été arrêtés et un réseau de trafic d'êtres humains a été démantelé à Yaoundé. Les victimes, identifiées au nombre de 13, viennent de Madagascar et de la RDC. Richard Onanena.
Elles ont été appâtées sur les réseaux sociaux par des Camerounais leur promettant un emploi bien rémunéré à Yaoundé. Sur place, les 13 victimes ont été séquestrées et maltraitées pendant 5 mois à l'insu du voisinage. Jean-Séverin Okala, chef du quartier.
Ils sont venus comme des simples locataires. C'est deux personnes qui se sont présentées comme des locataires. Et c'est une personne qui faisait des courses. On n'a pas beaucoup prêté attention à ça. Ce que j'ai vu la nuit, j'étais vraiment très surpris.
Une opération de la gendarmerie camerounaise au 19 mars a permis de libérer les victimes, 7 malgaches et 6 congolais de la RDC. Deux trafiquants ont été arrêtés. Le lieutenant-colonel Georges Parfait Nana, chef du commandement opérationnel de la gendarmerie nationale.
Ils subissaient de mauvais traitements. On leur demandait par exemple d'appeler leur famille pour qu'elles envoient de l'argent. Les filles auraient été probablement soumises à l'exploitation sexuelle.
Alors que les victimes restent sous observation, l'enquête se poursuit pour retrouver d'autres suspects impliqués. Dans un communiqué publié lundi, le ministère malgache des Affaires étrangères appelle à la vigilance face aux emplois à l'étranger après plusieurs cas de malgaches piégés au Cameroun par ce réseau de trafic des êtres humains. Richard Odanena, Yaoundé, RFI.
Le Cameroun également, où le RDPC, parti présidentiel, a fêté son anniversaire hier, 40 ans, des célébrations sous forme de meeting et d'appel à la candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Pour RFI, Polycarpe Essomba a assisté au meeting de Mokolo dans la région de l'extrême nord.
C'est à l'esplanade de la maison du parti de Mokolo dans le département du Mayotte-Sanaga que les militants et sympathisants du RDPC se sont donné rendez-vous pour renouveler leur attachement au parti et à son chef. Le président Paul Biya Kabiya. Le choix de la section RDPC de Mokolo n'était pas anodin. Son président, qui est en même temps maire de la ville, a rappelé opportunément le poids politique de cette section présentée comme l'une des plus importantes du pays en termes de poids électoral, avec une niche de plus de 80 000 électeurs. Il a aussi rappelé qu'historiquement, le département est acquis au RDPC, dont il est l'un des bastions. En plein meeting, l'assistance a été surprise par la présentation d'une centaine de personnes annoncées comme des militants de diverses formations politiques de l'opposition, dont ils arboraient par ailleurs les tenues. Nous sommes venus rejoindre et grossir les rangs du RDPC dans le département, ont-ils déclaré, sous les applaudissements nourris de leurs désormais camarades. Séance tenante, les nouveaux militants seront revêtus des couleurs du RDPC, à la grande satisfaction du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, principal orateur pendant ce meeting. Les militants du RDPC se sont séparés avec une motion de soutien et un nouvel appel à Paul Biya à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Polycarpe Somba à Mokolo par Marwa, RFI.
Enfin, au Sénégal, cela vient appuyer les révélations des nouvelles autorités de Dakar en septembre et le rapport de la Cour des comptes le mois dernier. Le FMI, Fonds monétaire international, confirme qu'entre 2019 et 2024, une partie de la dette a été cachée par l'administration précédente, celle de Macky Sall, pour un montant d'environ 7 milliards de dollars. Notre correspondante a interrogé Édouard Guémaïel, le chef de la délégation du FMI.
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge.
Il y a une sous-estimation. Donc on a eu une partie de la dette qui a été cachée et ceci a permis aux autorités de pouvoir s'endetter plus sur les marchés, de donner un signal plus positif aux marchés financiers et aussi de pouvoir s'endetter à des taux plus favorables que ce que ces taux auraient été si la dette était plus élevée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez ?
25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détourné, c'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
Le chef de la délégation du FMI à Dakar avec Léa-Lisa Westerhoff. Entretien complet à retrouver sur RFI.fr, rubrique invité. Pour l'instant, il est 7h42 à Dakar et vous êtes avec Andréane Mellard.